France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Dwayne Johnson, Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Zidane, Éric Judor, Lucien Jean-Baptiste, Harry Roselmack, Pascal Obispo, Nicolas Stoufflet, Voldemort. Qu'ont-ils tous en commun? Ils ont perdu quelque chose à des âges différents. Leurs cheveux, les amis, sont tous chauves et apparemment tous très bien assumés. Peut-être que vous, monsieur ou vous, jeune homme, qui nous écoutez, êtes justement en train de vous poser la question: à quel moment je rase? Est-ce que je saute le pas? Est-ce que je casse ma tirelire pour aller me faire faire des implants? Tout le monde n'est pas Fabrice Eboué ou Philippe Catherine qui font de leur calvitie une sorte de marque de fabrique. Ils ont construit un personnage avec des touffes de cheveux ici et là, ça leur va très bien. Plus personne, en revanche, n'ose la calvitie à la Giscard où on laisse pousser un côté seulement pour pouvoir coiffer Paris sur la banlieue. Ça n'est pas un hasard si régulièrement on voit passer des notes médicales sur un nouveau produit qui ralentirait ou stopperait la chute des cheveux. C'était le cas encore en fin de semaine dernière. La calvitie, c'est comme les cheveux blancs pour une femme en pire. Aujourd'hui, même les 18-34 ans s'en préoccupent. Certains vivent très mal la perte de leurs cheveux, le deuil de la tignasse. C'est comme si la jeunesse s'enfuyait peut-être alors que parfois elle a à peine commencé. Si vous avez déjà visité Sainte-Sophie à Istanbul, vous avez forcément croisé des touristes hommes avec plein de petits picots sur la tête. De plus en plus nombreux sont ceux qui refusent la fatalité de la chute des cheveux et optent donc pour des implants. Venez nous raconter, vous, l'histoire de vos cheveux. Est-ce que vous avez paniqué en les voyant tomber? Jusqu'à quel point est-ce un vrai traumatisme? Est-ce que vous savez déjà que vous vous paierez des implants, un toupet peut-être en attendant? Est-ce que vous avez 12 000 produits dans votre salle de bain? Au secours, je perds mes cheveux. C'est le téléphone sonne, les amis, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Jim, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Bonsoir Fabien.
On vous écoute, Jim. Bon.
Ben écoutez, moi, je veux déjà apporter une petite note différente. Moi, j'ai 35 ans, j'ai commencé un peu à perdre mes cheveux ces dernières années, ces derniers mois. Et au début, c'est vrai que c'était assez dur. Hein. Bon, voilà, c'est la vieillesse qui arrive brutalement dans notre vie. Et puis moi j'ai trouvé une solution miracle, c'est s'en foutre en fait. Hein, on n'est pas obligé de raser, la tête, on peut garder nos cheveux comme ils sont, on les perd un peu. Comme disait mon grand-père qui était un peu chauve lui aussi, la vie est courte même quand c'est long. Donc faut en profiter. Faut pas transformer ça a été transformé en un business. Hein, le capitalisme capillaire qui a transformé ça en une maladie très rentable pour eux. Je pense qu'il faut refuser tout ça, refuser les lotions qui marchent pas, les compléments alimentaires bidons. Les cliniques d'implants qui foirent, hein, il y a des témoignages dramatiques hein, sur ça. Donc c'est important, on est submergé d'informations sur ça et de petites solutions, de micro-solutions, mais ça marche pas vraiment.
Et en même temps, Jim, parce que je vois bien ce que vous avez raconté au standardiste tout à l'heure en appelant, et je le vois sur votre petite fiche, ça a pris du temps pour que vous puissiez dire j'en ai rien à faire en fait. Il a fallu que ça travaille quoi.
Il y a un travail, ça a travaillé, j'ai un peu travaillé sur le sujet au début, c'est vrai que c'est brutal. Hein, C'est vrai que c'est brutal, il y a le coiffeur qui commence à faire une tête bizarre, les petites blagues qui commencent à arriver, c'est pas évident au début, mais voilà, il faut pas non plus exagérer la chose, il y a des vrais problèmes médicaux beaucoup plus graves. Je pense qu'il faut quand même réussir à, on peut s'en sortir, on peut être heureux avec un peu moins de cheveux et surtout boycotter ce business de l'angoisse, quoi. Reprenons le contrôle de nos têtes, c'est important.
Eh ben écoutez, vous avez l'air d'avoir un vrai contrôle de la vôtre en tout cas, Jim. Merci beaucoup pour cette entrée en matière, merci pour votre témoignage. Pour discuter ensemble jusqu'à 20h au téléphone sonne, il y a le docteur Laura Zoulet qui est avec nous, bonsoir. Vous êtes chirurgien, plasticien, vous êtes membre de la Société française des chirurgiens esthétiques, plasticien. Il y a Jean-François Amadieu qui est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne. Vous avez écrit notamment La société du paraître chez Odile Jacob, c'était en 2016, mais je pense que ça tient toujours. Jean-François Amadieu, il est sympa notre ami Jim. Effectivement, la bonne solution, c'est de s'en foutre peut-être.
Oui, sauf
mais
que vous...
voilà, sauf il faut quand même sortir les avirons pour s'en sortir.
Il a peut-être pas sorti les rames, mais il explique qu'il a fallu qu'il travaille.
Ouais.
Donc il rappelle et il le sait bien, ça n'est pas évident. Mais cela dit, ce qui est intéressant dans cette intervention de Jim, c'est que heureusement que beaucoup d'hommes vivent tout à fait en perdant des cheveux.
Vous dites ça, vous avez une vraie tignasse, vous, donc
oui,
c'est trop facile.
Effectivement, je ne suis pas le mieux placé. Mais c'est vrai que heureusement que les gens parviennent à vivre. Et vous aviez raison de faire le parallèle avec les cheveux gris pour les femmes. Mm-hmm. Je voudrais quand même souligner que les femmes peuvent perdent leurs cheveux aussi.
Je sais, alors il y a beaucoup d'auditrices qui nous appellent en disant mais nous aussi, et c'est une réalité, oui, et d'ailleurs je vous poserai la question tout à l'heure docteur Azoulay, mais en effet n'oublions pas qu'il y a aussi des femmes qui perdent leurs cheveux, c'est juste que statistiquement, on va le dire comme ça docteur Azoulay, c'est quel est le pourcentage entre les hommes et les femmes en perte de cheveux?
Elles perdent aussi leurs cheveux, elles se font moins opérer que les hommes, celles qui perdent les cheveux. Mmh. Parce qu'elles ont plus de techniques pour masquer, elles ont les cheveux plus longs, il y a des artifices, donc, et elles, souvent la ligne antérieure est préservée, contrairement aux hommes, donc y a plus, elles peuvent plus se cacher. En fait.
Mmh. Et c'est vrai qu'on en voit très peu des femmes qui font des implants avec des petits picots sur la tête, comme on les croise et on sait tout de suite repérer chez un homme, ah ben celui-là il est en train de se faire des implants.
Alors aussi parce que les femmes, quand elles se font opérer, on rase pas la tête, donc on voit pas les petits picots.
D'accord, ah ben, Vous voyez, vous nous apprenez des choses et vous êtes vraiment, vraiment là pour ça. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, Laura Azoulay, que... parce qu'il y a eu la mode de l'homme chauve, hein, donc est-ce que vous avez eu le sentiment que pendant un moment, on n'en a pas trop parlé, et puis c'est en train de revenir, peut-être sur une jeune génération, pas le traumatisme, mais en tout cas la crainte de la perte des cheveux, ou pas du tout?
Alors,
vous avez le droit de dire non. Hein.
J'ai pas 10 ans d'exercice non plus. Moi, ça fait 6 ans que je suis installée, donc j'ai peut-être pas ce recul. De mon expérience, avec mon recul, je dirais que en fait, les techniques, dans les 10 dernières années, ont beaucoup évolué. Elles donnent maintenant des très bons résultats avec peu de séquelles. Donc j'ai plutôt vu une augmentation.
Mais du coup, ça veut dire quoi? Est-ce que... là, Jim, il a 35 ans, par exemple. Donc, s'il voulait se faire opérer, il peut y aller à peu près maintenant, ou pas? Est-ce qu'il faut attendre de savoir vraiment la masse de cheveux qu'on va perdre, et puis ensuite on y va, parce que sinon, il faut recommencer? Donc, à ceux qui nous écoutent et qui ont 20 ans, 25 ans, qu'est-ce qu'il faut dire?
C'est très difficile de répondre à cette question. Il n'y a pas d'âge auquel on peut opérer. C'est toujours une balance entre le capital chevelu, la gêne, gêne sociale, et voilà, essayer d'évaluer sur le temps. Mais en fait, on peut opérer un patient dès 25 ans, même si on n'aime pas trop opérer avant, mais j'ai déjà opéré même des patients plus jeunes de 25 ans. L'essentiel, ce qui est important, c'est que la zone qu'on va opérer, il faut qu'elle soit... à un stade d'alopécie avancé. Parce que c'est la fameuse calvitie d'alopécie androgénétique, elle est à un stade initial réversible. Donc, tous les stades, le stade réversible, on va essayer de le stimuler, on ne va pas faire la chirurgie à ce niveau. Donc, évidemment, la chirurgie, on la fait à un stade où les follicules sont détruits. On n'a plus d'espoir que d'une repousse avec un traitement médical. Donc, l'âge, c'est... Oui, à 35 ans, évidemment, on peut se faire opérer. On peut se faire opérer plus tôt, on peut se faire opérer plus tard. Il faut essayer de réfléchir à une stratégie pour ne pas vider la zone donneuse et avoir suffisamment de cheveux pour programmer dans le temps. Et ce n'est pas parce qu'on en fait une à 35 ans qu'on n'en fera pas une 10 ans plus tard.
C'est ça. Ça peut revenir quoi, à 5 ans, à 10 ans, en général, ça dit quoi?
En fait, c'est souvent les autres zones. Donc, il faut essayer d'avoir cette stratégie.
Ben, on n'a
pas
tout prélevé. Il faut être un peu stratégique la première fois.
Voilà. On ne va pas implanter trop bas. On tolère des golfs pour se dire, bon, bah voilà, là c'est correct, et on fera à l'arrière dans 5 ans, 10 ans, si, quand le patient sera gêné.
On va retourner au standard, bien sûr, dans un instant, mais j'ai envie de vous poser la même question, Jean-François Amadieu, sur ce moment où il y a eu une sorte de mode, en fait, où, enfin, en tout cas, on s'est dit, c'est possible de se raser la tête, c'est pas un problème. On peut être un homme qui a la tête rasée sans pour autant, sans qu'on nous demande si on est malade, pour dire les choses clairement.
Oui, bien sûr.
C'est encore le cas aujourd'hui? Il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans nos sociétés sur l'idée d'avoir un crâne chauve ou pas?
Oui, parce qu'on a pas mal d'études au plan international sur le bon choix à faire, au fond, la bonne stratégie pour un homme. Je mets de côté le fait d'aller chirurgien esthétique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le mieux perçu par les autres? C'est ça le sujet. Bon. En fait, soit vous avez beaucoup de cheveux, tous vos cheveux, dans ce cas, vous paraissez plus jeune, vous plaisez un peu plus, bon, c'est plutôt bénéfique. Et sinon, vous rasez complètement le crâne. Et ça marche bien. Certes, vous paraîtrez moins jeune, mais vous avez l'air dominant, vous avez finalement la perception n'est pas mauvaise, vous évitez surtout, je vais le dire de façon un peu brutale, la stigmatisation de celui qui a commencé à perdre ses cheveux, qui les perd au fond, qui est même raillé, parce que c'est assez incroyable quand vous regardez quand dans la publicité, je vais pas citer de marque, mais vous voulez représenter le personnage du beauf, de celui qui est un peu ringard, qui est un peu vieilli. puis vous allez le représenter avec une comme un homme qui a perdu des cheveux au fond, si vous vous souvenez de, je sais pas, de Michel Blanc, de Villeray, etc. Ouais. C'est un personnage, tout le monde le sait, et c'est ça que les hommes cherchent à éviter. Après il y a évidemment les stratégies du type libérer ou du chapeau, mais se raser complètement, c'est une stratégie plutôt payante, qui n'est pas du tout une mauvaise stratégie d'après les études.
On va y revenir sur les modèles aussi, parce que ça dit quelque chose, et probablement à ceux qui se sentent un peu traumatisés et qui donc soit vont se faire opérer, soit passent par une phase un peu complexe. Voici d'abord Guillaume qui est avec nous. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir François Terre, bonsoir Fabienne.
Bienvenue Guillaume.
Merci beaucoup. Alors moi de mon côté, c'était mal parti d'un point de vue génétique en regardant mon père, mes oncles et grands-parents. C'était vraiment mal barré. Première perte vers 20 ans, un âge où Fabienne, on clairement mise tout sur son apparence, notamment sa chevelure. Et du coup, pendant la vingtaine et la trentaine, il y a une prise de petits médicaments grâce à ma meilleure pote dont le père est dermato qu'on embrasse. Et ça a permis de ralentir un petit peu. C'était pas suffisant. Et du coup, j'ai 44 ans aujourd'hui. J'ai franchi le cap l'an dernier et je me suis fait implanter des cheveux. Mm-hmm. Et depuis, ma foi, la vie est belle.
La vie a changé ? Non, mais Guillaume, sérieusement, la vie a changé ou pas ? Est-ce qu'on se regarde dans le miroir ? Vous avez acheté des shampoings ?
Oui, alors j'étais pas à un stade de calvitie avancée.
Ouais, ouais.
Mais c'est vraiment là mon point, c'est qu'en vrai, personne, quand je suis revenu de ces implants, m'a dit « Waouh, t'as bien fait ». Personne, je dis bien, personne m'a dit ça. Ce qui prouve bien que c'est un regard qu'on a sur soi et pas le regard des autres.
Ouais. Parce que personne vous avait dit « C'est terrible, tu perds tes cheveux, tu devrais aller faire des implants ». Personne
vous a jamais dit ça. Clairement. Non,
mais est-ce que les gens vous ont dit « Waouh, t'as fait des implants » ou est-ce qu'ils ont mis un temps en disant « Il y a un truc qui a changé chez toi, mais j'arrive pas à savoir quoi ».
Alors, vu qu'on passe de... Globalement, on rase tout et après,
c'est vrai.
Vous avez évoqué, ça sera plus révélateur, effectivement, au cours de cet été.
Ok, écoutez, on vous souhaite un bel été, on vous souhaite une queue de cheval, un catogan et tout ce que vous voulez. Merci. Vive les catogans, merci beaucoup Guillaume, merci pour votre appel. Le Razoulé nous dit, notre ami auditeur, ça commence par les petits médocs, le ralentissement, etc. On en voit plein des pubs comme ça sur les réseaux sociaux et ailleurs. Ça existe ? Est-ce que ça existe vraiment ? Des crèmes, des choses, des médicaments qui ralentissent la chute des cheveux ou pas ?
Oui, ça existe. Okay. Des médicaments qui sont utilisés depuis des années et qui sont efficaces avec des études qui le prouvent et qu'on conseille pour au moins stabiliser la chute avant de faire la chirurgie.
Okay.
Parce que comme je disais tout à l'heure, la greffe, ça va servir, c'est un traitement palliatif pour remplacer les follicules là où il n'y en a plus, mais ça ne va pas arrêter la destruction des autres.
La crainte,
il faut souvent associer.
La crainte des gens qui viennent vous voir, c'est quoi en fait ? Est-ce qu'il y en a une ? C'est-à-dire, j'avais les cheveux frisés, est-ce qu'on est sûr qu'en repoussant ils seront frisés ? Ou est-ce que vous leur dites attention, vous pouvez avoir une autre implantation de cheveux, j'en sais rien. Est-ce que, combien de temps ça va prendre ? Est-ce que ça viendra vite ? Est-ce que ce sera les mêmes ? Il y a des questions de ce genre-là ou pas ?
Alors, la nature des cheveux, ça, non, on me demande rarement. C'est effectivement...
Mais c'est la même nature des cheveux ?
C'est la même nature des cheveux. En tout cas, la nature des cheveux dans la zone de prélèvement, à l'arrière, qui peut parfois varier, en effet.
Okay.
En termes de couleur, souvent, les cheveux blanchissent un peu moins derrière.
Par exemple, ouais.
C'est vrai, mais si, la base est quand même la même. Hein. Mm-hmm. Mais c'est rarement une question. La crainte, c'est sur la densité. Est-ce que ça va être suffisant ? Est-ce que j'ai assez de zones donneuses pour couvrir ? C'est plutôt sur ça. Et puis après, sur la première année, cette fameuse première année, est-ce qu'il faut couper les cheveux ?
Est-ce qu'il faut couper les cheveux ou pas ?
En général, oui. On a des techniques pour ne pas couper les cheveux.
Il faut le dire au coiffeur, par exemple, sérieusement ? Il faut dire au coiffeur, attention, ils sont tout neufs, ça casse.
Les cheveux avant l'intervention.
Avant l'intervention, bien sûr.
Au bout d'un an, évidemment.
Au bout d'un an.
On veut, c'est des cheveux qui vont pousser, retomber, redonner un...
Retomber ?
Nos cheveux, ils ont des cycles, en fait.
Okay.
Ils poussent, ils tombent, puis un autre cheveu qui sort.
Ouais, c'est
ça,
vrai.
C'est le cycle naturel. Donc ça va être absolument normal.
On a un auditeur qui nous dit, parce qu'on peut plaisanter aussi, qui s'appelle Claude sur WhatsApp et qui dit « Je ne perds pas mes cheveux, je sais exactement où ils sont. Ils sont dans le siphon de la douche. » Et il n'a pas complètement tort. En effet, Jean-François Amadieu, il y a dans le paraître, dans l'envie du paraître, et on peut vraiment comprendre ça, il y a aussi qui sont les modèles, en fait. Et des modèles... sans cheveux, il y en a aujourd'hui. J'en ai cité quelques-uns, après tout. Si on dit à un homme, t'as la tête de Zidane, ça a quand même beaucoup plus plaisir que je ne sais quoi d'autre. Est-ce que ça a mis du temps à venir. Et surtout, ce modèle, il dit quoi? Parce que vous m'avez beaucoup intrigué tout à l'heure avec ce que vous disiez sur l'inverse de Michel Blanc, par exemple. Il y a quelque chose d'assez monsieur propre, donc assez masculiniste, finalement, dans l'idée de pouvoir exhiber son crâne chauve.
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses. Il y a un point très important pour beaucoup d'hommes. C'est pour ça que quand vos auditeurs interviennent, c'est un thème très important de voir leur âge, parce que vous allez être perçu par les autres comme plus vieux.
Ouais.
Donc, c'est un sujet très important pour les femmes comme pour les hommes. Il l'est de plus en plus. Et donc, la pression sociale que vous avez, à la fois pour les relations amoureuses, les rencontres, et également sur le marché du travail, elle s'exerce beaucoup sur ce sujet. Avoir l'air jeune. C'est pas votre âge à l'état civil, c'est aussi de quoi vous avez l'air. Et effectivement, les cheveux y contribuent beaucoup. Donc ça, c'est un premier point. Mmh. Et puis, après, vous avez, ce que vous dites, c'est vrai que c'est frappant, les cheveux totalement rasés vont finalement vous donner une allure plus masculine, en effet, plus virile, d'où le fait que dans les études, on s'aperçoit que vous avez l'air plus dominant, pas forcément un meilleur leader, mais plus dominant, ça c'est certain. Vous séduisez quand même un peu moins, mais c'est pas le sujet principal. Donc, au total, vous avez l'air de quelqu'un qui a quand même confiance en lui, etc. Donc, l'image n'est pas dévalorisante. C'est pour ça que beaucoup d'hommes ont adopté ces stratégies depuis pas mal d'années,
quand même,
parce qu'elle marche bien. Elle est une bonne stratégie.
Mais elle a quoi, cette stratégie? Elle a une vingtaine d'années, à peu près,
Oui, au moins.
Mais voilà, mais c'est ça, mais pas plus, quoi. Je veux dire...
Non, bah, dans le passé, en dehors de Yul Brynner ou de quelques rares,
c'est exactement ça.
Il y en avait très très peu.
On a Stéphanie, je fais une parenthèse, qui doit avoir le même âge que moi, parce qu'elle dit, moi j'ai toujours été attirée par les hommes chauves. Déjà petite, Yul Brynner, David Carradine dans Kung Fu, donc je pense qu'on a le même âge. Elle trouve que le visage sans cheveux est mis en valeur, nous dit-elle, donc pas d'inquiétude, dit-elle, pour les hommes qui nous écoutent.
Sauf que c'est devenu beaucoup plus fréquent.
Mais assumer, ça fait qu'une vingtaine d'années en effet. Oui. Donc,
mais c'est devenu plus fréquent au fur et à mesure de la stigmatisation, si vous voulez, de la dévalorisation, si vous préférez, de l'homme qui finalement n'a pas pris soin de lui, ne s'est pas entretenu, paraît plus vieux, et vous voyez, je disais beauf, tout simplement, et ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est maintenant comme ça, ça n'a pas toujours existé, donc c'est pour ça qu'il y a eu davantage, et que cette technique consiste à se raser complètement, s'est développée, bien sûr.
Il y a Jean sur WhatsApp qui remercie Fabien Barthez depuis 98, le regard général a changé, et c'est très bien, et pourquoi pas, on se souvient de, je crois que c'est Didier Deschamps qui lui embrassait le crâne pour que ça lui porte bonheur, avant de marquer. Voici Pierre qui nous attend depuis un moment. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Fabienne.
On vous écoute Pierre.
Moi c'est mon témoignage, je vous l'apporte ce soir. Moi j'ai 50 ans, il y a 20 ans, donc à 30 ans, j'ai commencé à perdre mes cheveux. J'avais les cheveux longs et bouclés. Et en fait, ce qui m'a aidé, parce que vraiment, j'avoue que je j'étais pas bien en fait hein, sur le fait de me raser mes cheveux pour pas les voir tomber, parce que je voyais qu'ils tombaient sous la douche, mais ça se voyait pas trop. Et ce qui m'a aidé, c'est de changer de travail, parce qu'en fait, j'avais peur avant tout du regard des autres, pas tant de ma famille, mais plutôt des regards des gens qui me connaissaient. Et j'avais pas envie que du jour au lendemain, on me voit arriver avec les cheveux rasés. Et du coup, j'ai eu cette chance que je changeais de travail. Et donc, je me suis tondu les cheveux. On les voyait encore, mais ils étaient tondus à la tondeuse. Et ce qui était super, c'est que quand j'ai changé de travail, quand je suis arrivé le lundi matin, en fait, les gens m'ont regardé sans jugement, comme s'ils m'avaient... c'était la première fois qu'ils me voyaient. Donc, en fait, moi, je savais que j'avais tout rasé, mais eux, ils ne savaient pas. Et ça m'a vraiment aidé, ça.
Vous avez besoin que quelqu'un vous regarde sans jugement, Pierre.
Oui, c'était ça, c'est vrai.
Eh bien, écoutez, on est content pour vous. On est vraiment ravis pour vous. C'est fou, quand même, Jean-François Amadieu, parce qu'on dit que... oui, depuis une vingtaine d'années, on peut être chauve dans la vie et les gens ne vous regardent pas de travers. Il y a même quelque chose de presque viriliste qui peut plaire à certains. Mais quand même, quand on entend les témoignages et quand on entend celui de Pierre notamment, il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire, vraiment.
Oui, il faut préciser aussi.
Pour se détacher du regard des autres, effectivement, et du paraître.
Non, c'est très compliqué dans le monde dans lequel on vit d'être détaché du regard des autres. Cette pression est telle que, comme c'est souvent dans vos témoignages, on le voit très bien, et les clients qui vont... évidemment faire des implants ou recourir à la chirurgie esthétique en général, c'est pour être mieux, s'estimer mieux, etc. Donc c'est évidemment un bénéfice psychologique évident. Mais la pression est effectivement sociale. Je voulais ajouter juste quand même un point.
Je vous en prie.
C'est que sur les, comme c'était rappelé par votre intervenant, beaucoup d'hommes, beaucoup de stars, de sportifs, etc., optent aussi pour des coupes de cheveux extrêmement rasées. Donc quand vous c'est aussi technique utilisée d'ailleurs par des hommes ou des femmes, parfois aussi pour des raisons de texture de cheveux et, aussi de ce qu'on appelle les cheveux texturés, et donc cette technique consiste à avoir les cheveux extrêmement ras, finalement fait que ça diminue cette impression que les autres peuvent avoir que vous perdez vos cheveux, parce que finalement ça, vous voyez ce que je veux dire, et ça s'est beaucoup diffusé aussi, mais on retrouve un modèle finalement très, assez similaire au crâne totalement rasé.
J'ai reçu un message de Nathalie Yanetta à l'instant, qui est directrice du sport à Radio France, qui me dit c'est Laurent Blanc qui embrassait Barthès et pas Didier Deschamps, donc je tiens à m'excuser, mais totalement platement. Et on embrasse évidemment Nathalie. Dans un des auditeurs précédents, Laura Azoulay, je l'ai noté, mais on a un peu passé, nous dit j'étais très mal barrée génétiquement. Est-ce que, oui, il y a toujours un facteur génétique dans la perte des cheveux ou pas?
Oui, il y a toujours un facteur génétique. Après, c'est très fréquent aussi, cette cause de perte de cheveux, donc on le retrouve souvent. Mais oui, c'est cette cause-là, génétique et héréditaire.
Quelles peuvent être les autres causes de perte des cheveux? Alors, un traumatisme, par exemple, des choses comme ça? Est-ce que c'est une...
Un traumatisme psychologique, un traumatisme physique aussi.
Bien sûr,
une brûlure, une cicatrice qui nous fait perdre des follicules, des maladies de peau.
Et est-ce que dans ces cas-là, et quelle que soit la raison pour laquelle ces cheveux sont tombés, est-ce que dans ces cas-là, il y a forcément toujours une solution que vous, chirurgien plasticien, vous pouvez apporter? Ou est-ce qu'il y a des solutions où on est obligé de dire... Non, ça ne marchera pas, ou ça n'est pas comme ça que ça pourra marcher pour vous?
Alors, dans les maladies de peau, il faut absolument que le processus évolutif, la maladie, soit calmée, arrêtée. Sinon, on ne va pas faire la chirurgie, ça c'est sûr. Quand le processus est arrêté, on peut envisager une greffe. On fait attention dans ces cas-là, on peut faire un test dans une toute petite zone pour voir la réponse, pour être sûr que les greffons ne vont pas être détruits par la maladie qui a causé cette chute de cheveux. Donc il y a des solutions, mais surtout pas quand le processus est encore actif, évidemment.
Il y a un auditeur sur WhatsApp qui s'appelle Emmanuel, Jean-François Madieu, qui nous dit quel est le rôle des cheveux en dehors de l'aspect esthétique. Y a-t-il historiquement un rôle des cheveux? Enfin, voyez, lorsque on rase la tête de Samson, c'est là qu'il perd toute sa force. Enfin, il y a quand même beaucoup de symbolique autour des cheveux. Il y a un rôle, une symbolique importante ou pas?
Oui, ce qui est d'ailleurs un paradoxe, parce que si les hommes perdent plus tôt et plus rapidement les cheveux que les femmes, effectivement, c'est aussi, c'est un processus naturel. Mais effectivement, il y avait dans l'imaginaire, vous faites référence à Samson, l'idée qu'effectivement, avoir tous ses cheveux, c'était un signe de force, de puissance, et de virilité. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, les choses sont différentes aujourd'hui. Donc la perception a changé de ce point de vue. On voit différemment les choses, et comme je le disais, depuis une trentaine d'années, très clairement, les choses ont... La perception des cheveux totalement rasés, j'insiste sur ce point, ou du crâne complètement chauve, a clairement changé. C'est plus perçu de la même manière par rapport au passé. Ce qui va dans le sens de ce que vous, par exemple, vous indiquez sur les cheveux très longs, c'est que il y a des études scientifiques dans lesquelles on regarde qu'est-ce que les gens pensent quand ils voient juste votre tête et qu'ils voient que vous avez tous vos cheveux ou que vous en avez perdu. Mmh. En fait, ils pensent quand vous avez tous vos cheveux, c'est comme Samson, les gens pensent que vous êtes grand. Plus grand. Il l'imagine comme
drôle.
Ça, il vous imagine plus grand, il vous imagine plus fort, ayant plus de force. Ça, c'est donc intéressant, cette perception, alors qu'ils n'ont vu que un visage, le même, et puis on change les cheveux, et ils sont peut-être que vous en avez plus. Effectivement, ça va dans le sens. Donc c'est toujours la même image que celle de Samson, pour le coup.
Docteur Azoulay, Frédéric sur WhatsApp dit ceci: un ami est allé en Turquie pour faire des implants. Existe-t-il des risques? À ce jour, il est content. J'avoue me poser la question. J'ai un début de calvitie et je pense pense que mes cheveux vont me manquer, dit-il avec un smiley à côté. Alors vous avez bien raison de nous dire que c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'aller chez vous et beaucoup plus sûr d'aller en Turquie. Mais l'idée du voyage en Turquie ou ailleurs, d'ailleurs, ça parle de la banalisation, au fond, de ce type d'opération et presque de sa démocratisation, d'une certaine façon. Aujourd'hui, combien ça coûte d'avoir à nouveau des cheveux ?
En France ?
Chez vous, par exemple.
Ça va dépendre du nombre de greffons, mais ça va être entre 5 et 10 000 euros, 5 et 8 000 euros, en fonction de la zone.
Ce qui est une somme.
C'est un gros budget j'ai l'impression que les tarifs, ça va, c'est 3-4 fois moins cher dans certaines cliniques turques.
Ouais.
Après, il faut savoir qu'il y a aussi des cliniques en Turquie qui ont les mêmes tarifs qu'à Paris. Mmh. Et comme partout, pour répondre à sa question, est-ce que c'est sécure comme partout, il faut faire attention, avoir un bon feeling avec le médecin qui va nous prendre en charge.
Je pense que c'est pour ça qu'il nous pose la question, ouais. Notre ami auditeur, parce que on peut rencontrer 10 personnes avec lesquelles ça s'est très très bien passé, et puis paf.
Voilà. Il y a des bonnes cliniques et des moins bonnes, et il y a des bonnes cliniques et des moins bonnes aussi à Paris. Hein, donc l'essentiel, c'est d'être rassuré. C'est vrai quand, en général, dans notre métier, quand il y a du bouche à oreille, ben on est rassuré parce qu'il y a quelqu'un qui est venu qui peut témoigner. En tout cas, de mon point de vue de chirurgienne plastique, dans mon métier, il y a aussi d'autres domaines chirurgicaux qui ne touchent pas donc le cuir chevelu, où je déconseillerais fortement d'aller à l'étranger parce que c'est des chirurgies qui sont plus risquées, où les complications précoces peuvent être graves. Pour la silhouette notamment, le silhouette, sein. Là, je déconseille fortement. Ouais, ouais. La chirurgie du cuir chevelu, elle se passe bien. Donc, médicalement, vous risquez pas grand-chose. Il y a très peu de complications. D'ailleurs, même mes patients, parfois, ils habitent... je les revois pas deux jours après. Ils peuvent partir prendre l'avion le soir même. Donc voilà, c'est assez sûr sur ce point de vue-là, quoi.
Et au cas où, un ratage ailleurs, en Turquie ou ailleurs, est-ce que c'est rattrapable ensuite chez vous ou pas ?
Alors, tout le sujet de ratage,
Qu'est-ce que ça peut être un ratage ?
Comme je vous dis, il y a très peu de complications, infections... voilà, en gros, c'est ça. Hématome, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de décollement. Mm-hmm. Donc, ces complications chirurgicales, elles sont absentes. Par contre, s'il peut y avoir un résultat insuffisant, les cheveux prélevés ont pu être mal prélevés. Donc, ça veut dire qu'on en perd et on ne les a pas implantés. C'est surtout ça, en fait. C'est perdre des follicules. Mm-hmm. Ce serait ça, la complication. Mm-hmm. Et ça peut ne pas être rattrapable. Mm-hmm. Ou implanter, avoir... opter pour une mauvaise stratégie, par exemple. Décider d'implanter trop bas, trop vite.
Et c'est moche.
Ouais. Et c'est pas forcément joli, voilà, si la ligne, elle est fixée.
Ça pour le coup, ça peut changer un visage. Non, mais c'est très important que le visage soit pas... qu'on se reconnaisse dans... Ouais. Ça, pour le coup, vous savez ça très très bien. Si on se reconnaît plus après une opération esthétique, quelle qu'elle soit, c'est très grave. Pour les cheveux, c'est pareil.
Donc voilà, tout ça, c'est des questions de stratégie, pas trop vider, donc on peut pas tout rattraper. Et ça a été raté.
On est en train de parler de calvitie dans le téléphone sonne avec le docteur Laura Zoulet qui est chirurgienne plastique, avec Jean-François Madieu qui est sociologue et professeur à l'université Panthéon-Sorbonne.
France Inter. Le téléphone sonne.
Et avec vous Noël aussi, vous êtes la bienvenue, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Noël.
Alors je vous appelle, donc c'est pas pour moi, pour le coup c'est pour moi, pour vous évoquer la question de mon fils, parce que d'après les témoignages que j'ai entendus tout à l'heure, c'était plutôt des hommes qui avaient entre 30, 40, etc. Et lui en fait il a 21 ans, et il a perdu, alors pas tous ses cheveux, mais disons que sur le dessus du crâne, hein, les calvities habituelles, quoi, les golfs, c'est plus des golfs, c'est carrément, je sais pas trop comment les appeler.
C'est un 18 trous, hein, c'est pas un mini-golf, c'est un 18 trous.
Voilà, et comme il est, il a 21 ans, donc il est jeune, c'est un étudiant, et en fait, c'est compliqué, c'est difficile vis-à-vis des autres. Je ne saurais pas vous dire quel âge lui donnent les autres, parce qu'évidemment, comme moi je suis sa mère, je ne peux pas, j'ai une position qui est un peu différente.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai que c'est complexe. Alors les solutions qu'il a envisagées, c'est ce que vous avez évoqué, hein, tout raser, ou bien éventuellement faire une chirurgie, mais pour l'instant c'est pas encore vraiment envisagé comme une solution, on va dire, sérieuse. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que très très jeune... c'est difficile à vivre, voilà.
Et pour vous, Noël, d'ailleurs, comment vous le regardez, votre fils ? Est-ce que parfois vous dites mince, je vais lui offrir des cheveux à mon fiston?
Oui, alors je pourrais. De toute façon, si c'est la solution qu'il choisit, je pense que c'est plutôt nous qui allons payer. Mais bon, ça c'est un autre problème.
Ouais, c'est un autre téléphone sonne.
Voilà, c'est un autre téléphone sonne. Mais non, parce que si vous voulez, c'est mon fils, quoi. Donc ouais. J'allais dire, il pourrait être borgne ou je sais pas trop quoi.
Évidemment.
Voilà.
Évidemment.
Voilà, évidemment. S'il avait beaucoup plus de cheveux, il serait plus à l'aise, il serait plus peut-être mieux dans sa peau. Donc je trouverais évidemment la situation meilleure. Mais sinon, sur le fond, ça ne change rien. Voilà.
Merci beaucoup, Noël, pour votre témoignage. Vous avez partiellement répondu déjà à Laura Azoulay, un jeune homme qui a 21 ans, qui vient vous voir en disant « Vous allez faire quelque chose pour moi ». Il faut lui expliquer doucement qu'il faut attendre un peu plus, en fait, qu'il y ait plus de cheveux qui tombent, en gros, pour que ça ait du sens.
Et après, il faudrait l'examiner, parce que peut-être qu'il a sur l'avant, visiblement, ce qu'elle raconte, ce que Noël dit sur son fils, il a un recul de la ligne où là, aucun traitement médical va pouvoir traiter. Donc, il faudrait déjà stabiliser, avoir un recul d'un an ou deux avec un suivi dermato. Ça, c'est très important pour qu'ils comprennent que la chirurgie seule n'est pas la solution, mais que c'est une association de traitements. Et ensuite, en fonction de l'impact psychologique, discuter peut-être au bout de 2 ans d'une greffe en faisant attention à pas trop descendre sa ligne. Parce que lui, le sujet, c'est qu'on a peur qu'on n'ait pas assez pour couvrir tout le dessus de la tête. Ouais. Donc, il va falloir qu'ils comprennent qu'on va lui laisser des golfs. Mmh. Et voilà. Mais j'ai déjà opéré des patients à 22 ans pour le front, aussi des contextes d'école, c'est difficile pour l'entourage. Donc voilà, c'est pas impossible, mais il faut qu'il commence le processus dans l'ordre.
Pardon, je voulais juste ajouter que pour les cheveux gris, on observe dans beaucoup de pays, et c'est assez effarant de voir ça, à quel point de plus en plus jeunes les gens ont les cheveux gris. Mm-hmm. C'était pas du tout le cas avant. Ouais. Donc ça, c'est un phénomène nouveau. Et je pense qu'il doit en être de même pour l'alopécie, sauf erreur. Je parle sous votre contrôle. Mais parce que probablement les mêmes causes produisent les mêmes effets, puisqu'on pense que c'est un certain nombre de perturbateurs endocriniens ou de facteurs environnementaux ou autres qui créeraient ces phénomènes. Donc, et puis ça peut être aussi l'usage de certains produits aussi chimiques. Si je pense par exemple à des femmes qui vont, prenez les femmes de couleur de peau noire qui ont les cheveux texturés, on sait qu'elles vont faire de l'alopécie, tout simplement parce qu'elles ont utilisé beaucoup de produits, de lissants, etc. Donc, en fait, le monde dans lequel on vit, une fois de plus, provoque de plus en plus jeune de la perte de cheveux. Je ne sais pas si d'ailleurs dans votre cabinet vous le pouvez ou si vous avez des études qui l'ont confirmé.
Est-ce qu'on échauffe plus jeune aujourd'hui qu'on l'était avant, à votre avis ? Pour toutes ces raisons extérieures, environnementales
La calvitie, je ne sais pas.
Vraiment androgénétique, je n'ai pas de chiffres. Je ne peux pas confirmer ce point.
Ben, écoutez, pour ce qui est des cheveux blancs, je ne peux pas en parler, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Voici Julien qui est là. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
On vous écoute.
Eh ben, moi je voulais simplement faire part faut pas trop se désespérer. Moi j'étais un métalleux chevelu pendant très très longtemps. Et il y a une dizaine d'années, assez tôt, j'ai commencé à perdre les cheveux, j'ai tout fait pour garder ça le plus longtemps possible et tout. Et puis bon, voilà, au bout d'un moment, c'était devenu incoiffable. J'ai fait, faut se décider, on enlève tout. Et en fait, ça m'allait beaucoup mieux que les cheveux, même quand ils étaient bien présents. Ça m'allait beaucoup mieux. La crainte, par contre, qu'on peut avoir, c'est qu'au moment où on se rase la tête, on peut avoir peur de ressembler à... d'avoir une tête de skin, on va dire ça comme ça.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, Julien, parce que on a un message de Béatrice sur WhatsApp qui dit « Moi, quand j'étais plus jeune, les crânes rasés, c'était les mecs d'extrême droite ». Donc, on voit bien comment ça a bougé. Ouais.
J'avais peur de ça, et j'ai trouvé une astuce, c'est l'inversion de pilosité. J'ai enlevé les cheveux, j'ai laissé pousser la barbe.
Ouais.
Et en vrai, ça fait la blague, ça fait... Je ne sais pas pour quelle raison, mais ça ne fait pas ce ressenti, justement.
Eh bien, Julien, merci beaucoup. C'est intéressant ce que nous dit Jean-François Amadieu. Voilà le stéréotype auquel je ne veux pas ressembler, même si effectivement ce stéréotype il est lointain maintenant, parce que ça fait longtemps qu'on est pas obligé d'être un skin pour être chauve, mais je trouve ça rigolo de se dire finalement, je vais... Il y a beaucoup d'appels comme ça. Il y a Julien est barbu, il y en a un autre qui nous dit « Moi, j'ai conservé mon bouc dès lors que je me suis rasé. »
Alors, vous remarquerez aussi que là aussi, depuis une vingtaine d'années...
C'est la mode, vous voulez dire.
C'est la mode, oui. C'est même, je ne sais pas aujourd'hui si on peut trouver un seul jeune qui n'a pas aujourd'hui une barbe, etc.
Ouais, ouais.
Donc c'est complètement acquis, mais c'est intéressant, il y a un lien entre les deux, peut-être. Oui, ça c'est assez intéressant.
On peut se faire opérer sur l'épaule du visage ou pas, Laura Azoulay? Oui. C'est efficace, ça marche, c'est tout aussi efficace que sur le crâne ou pas?
Oui.
Absolument. Et il y a beaucoup d'hommes qui demandent ça ou pas?
Peu.
Ouais. En général, les raisons.
En proportion. Des cicatrices, ouais. Une barbe qui n'est pas assez fournie à certains endroits.
Très, très inégale, ouais.
Voilà, avec des trous, ou carrément très pauvre de manière congénitale et normale, j'ai envie de dire, mais où esthétiquement ils veulent plus de densité. Ouais.
Intéressant.
On peut greffer des sourcils aussi.
Ok. Mmh.
Alors pour la barbe, ça pousse à la même vitesse que les cheveux. Donc en général, si on veut faire combler des petits trous, en général, on prend au niveau du cou pour avoir les mêmes poils, la même vitesse de pousse et la même texture. Mais si on veut en implanter beaucoup, on va prendre des cheveux.
Mmh.
Au niveau des sourcils, par contre, on ne peut pas prélever des sourcils, c'est très difficile. Donc on va prélever des cheveux. Et là, par contre, ça va pousser à la vitesse des cheveux, donc beaucoup plus vite et beaucoup plus long. Donc il faudra les entretenir, les couper.
Tiffen dit, c'est important de parler aussi des effets indésirables des traitements médicamenteux contre la perte des cheveux, dépression, hypertension, troubles de la libido, dit-elle. C'est des choses que vous avez beaucoup constatées aussi?
Oui, alors en fonction des classes médicamenteuses, effectivement, des effets vasculaires, comme l'hypertension, ou les effets cutanés aussi, parce qu'il y a certains traitements qui s'appliquent en lotion, donc certains décrivent des démangeaisons. Et pour un autre des traitements qui va agir sur le cycle de la testostérone, effectivement, on peut observer des baisses de la libido, des baisses de la fertilité, et également des troubles de l'humeur pour cette classe de médicaments, à surveiller donc par le dermato.
Absolument. Voici Mohamed qui est avec nous. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir. Ben, tout d'abord, j'aimerais bien en fait saluer votre travail, en fait toute la rédaction France Inter, pour tout le travail que vous faites tous les jours et l'information que vous apportez.
Merci Mohamed.
Voilà. Par rapport au sujet de la calvitie, effectivement, j'ai 44 ans aujourd'hui. Et donc, au début, ça a commencé progressivement, donc au niveau des golfs et puis au-dessus, le cortex. Donc, ça devenait un peu clairsemé. Et progressivement, on développe des compétences à camoufler, à cacher, en fait, le vide. Et petit à petit, en fait, moi, j'ai abandonné. J'ai plus cru, en fait, à mes techniques. Contrairement à Donald Trump, qui fait, il couvre son
c'est
crâne.
Vrai.
Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, un jour, j'en avais marre, en fait, de cette stratégie le matin. Et donc, j'ai passé le sabot. Donc, boule à zéro, plutôt, et à ma grande surprise, je me trouvais sexy et charmant. et du coup, en fait, je me suis en fait débarrassé de toutes ces pratiques le matin, le gel, les pâtes, le coiffage. Et disons que dans la mentalité, en fait, cette image en fait, a été associée à des personnalités comme Jason Statham dans des films où il a une posture très virile, très masculine, voilà des rôles héroïques, ce qui n'était pas le cas pour moi, donc je suis dans la vie quotidienne, donc il y a eu des moments et des situations moins élégantes que ce qu'on voit de Jason Statham. Et du coup, ce que j'avais petit à petit ressenti, c'est enfin des non-dits. Des gens en fait qui m'attribuaient un âge en fait qui était supérieur au mien, ou me classaient peut-être, ou défavorisaient peut-être par rapport sur le plan de travail professionnellement. Et du coup, alors je me suis dit, j'ai entendu parler un petit peu pour les vacances touristiques, vacances médicales, et donc j'ai franchi le pas, j'ai osé, je suis allé en Turquie, à Istanbul.
Ah bah voilà. Mohamed, pardon de vous interrompre parce que vraiment il est l'heure, mais est-ce que c'est pas intéressant le cas de Mohamed qui a bien fait, Mohamed, je suis sûr que vous êtes sexy et charmant de toute façon, de pas se faire la tête de Donald Trump, mais j'assume d'être chauve, et puis finalement on me donne un âge plus vieux que le mien, redonnez-moi des cheveux s'il vous plaît. J'adore.
Oui, c'est vrai. Bon, oui, effectivement, avec des cheveux, il paraîtra quand même plus jeune. Mais vous avez remarqué quand même la stratégie, je me suis rasé complètement, il était content aussi. Hein.
Voilà.
D'un seul coup, c'était devenu un autre personnage.
Et pour finir cette émission, qui m'a envoyé sa photo? Thomas Negaroff, voilà, que j'ai sur mon téléphone. On l'embrasse, Thomas. Très beau, très charmant, très sexy également, Thomas Negaroff. Allez, il est 20h.